mouvement social, mouvement d'émeute, finalement multimarqué.
Le 7 juin dernier, Alain Berthaud était l'invité de l'Institut méditerranéen de recherche avancée, l'IMERA, dans le cadre du séminaire intitulé « De la Révolution ». Alain Berthaud, maître de conférences sur l'anthropologie moderne et spécialiste du phénomène émeutier dans le monde, nous a accordé quelques mots. Alain Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous étiez aujourd'hui invité à l'IMERA et vous présentiez une conférence dans le cadre du séminaire intitulé « De la Révolution ». Comment peut-on expliquer cette vague de soulèvement dans les pays arabes ? Était-ce prévisible ?
Prévisible, jamais. Les événements sont jamais de ce type, ne sont jamais prévisibles, mais pas surprenant dans la mesure où, comme je l'observe depuis plusieurs années, nous vivons une période de fréquence de plus en plus grande, des phénomènes émeutiers, des soulèvements sur tous les continents, dans tous les régimes, de soulèvements sur plein de sujets, mais notamment autour de la mort d'un jeune dans lequel les forces de police sont impliquées, ce qui est le point de départ de l'émeute de ces Dibouzides et des 3 semaines, enfin des 4 semaines qui ont amené au départ de Ben Ali. Donc ces révolutions, comme on les a appelées, c'est un mot sur lequel il faudrait peut-être revenir, mais sont dans l'esprit du temps, sont bien de leur temps et sont dans une dynamique qui, dans le monde entier, est observable depuis plusieurs années.
C'est donc cette dynamique, lien entre les soulèvements arabes, enfin le printemps arabe, et les soulèvements récents en Europe, ils sont liés donc ?
Ben, c'est sûr qu'il y a eu un premier phénomène intéressant, nouveau, dans les événements tunisiens et égyptiens en tout cas, c'est que les émeutes, qui sont d'abord le fait d'une jeunesse urbaine au chômage ou éduquée, ou les deux, ces émeutes ont réuni autour d'elles une bonne partie de la population et ont permis à une bonne partie de la population de parler d'une seule voix, d'une voix nationale pour demander au gouvernement de s'en aller. Donc ça, c'est un premier événement tout à fait nouveau. Le deuxième, c'est que ça fait école. Ça a fait école et que cette façon de faire a fait que d'autres jeunesses, juste de l'autre côté de la Méditerranée, pas si loin que ça finalement, et qui connaît un peu le pays, d'autres jeunesses se sont senties concernées, voire se sont dit qu'elles pouvaient faire pareil et que des places tahrir pouvaient naître ailleurs. Vous savez, il y avait le vieux slogan de Che Guevara en 1967, il faut 1, 2, 3, plusieurs Vietnam. Là, c'est un peu comme si les indignés de la place de la Puerta del Sol disaient il faut 1, 2, 3, place Tahrir.
Vous tentez de recenser sur votre site Anthropologie du présent toutes les émeutes ayant eu lieu dans le monde depuis 3 ans et demi, c'est ça ?
Absolument, mais je le fais tous les matins. Parce que c'est une activité qui ne doit pas prendre de retard, surtout parce que la fréquence en est de plus en plus grande. Et donc, tous les matins, je regarde sur Internet, dans de multiples langues, ce que je peux trouver comme information publiée, des fois c'est quelques lignes, hein, des fois ce sont juste des traces, sur des affrontements entre les populations et les pouvoirs. Aujourd'hui, j'en ai une moyenne de 5 à 8 par jour. Ça va nous amener à plusieurs milliers dans l'année.
Selon ces chiffres, justement, les émeutes semblent suivre une croissance exponentielle. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation ?
Ce qui explique cette période, c'est que visiblement les dispositifs de représentation politique, démocratique ou non, qui avaient fonctionné pendant des décennies et qui permettaient de régler les conflits politiques, les conflits sociaux d'une façon symbolique, discursive et pas forcément violente, se sont complètement effondrés. Et donc partout, sur des questions récurrentes mais diverses, des populations nombreuses, moins nombreuses, des pays entiers, une ville, un quartier, sont amenées à passer à l'acte et à mettre en danger leur vie d'ailleurs et leur intégrité physique pour se faire entendre et pour faire avancer les choses face à des États qui de moins en moins intègrent l'idée de négociation dans leur façon de gouverner et l'idée de compromis. Parce qu'ils sont pris dans des contraintes, notamment des contraintes financières internationales qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc cet effondrement effondrement du système de représentation, c'est un effet de la mondialisation, et les émeutes, c'est un espace politique ouvert par la mondialisation.
Cette croissance des émeutes serait peut-être liée au relais de l'information via les médias qui a changé, et aussi l'apport des réseaux sociaux sur Internet.
Alors, les gens n'attendent pas de savoir s'il y a des émeutes ailleurs pour commencer à en faire. Le sentiment que ça suffit, et le sentiment de le fait d'être excédé par l'attitude des pouvoirs en place sur des questions comme l'alimentation électrique ou la gestion des marchés, il n'y a pas besoin de la circulation de l'information pour ça. Donc c'est bien un phénomène général qui est dû au dispositif étatique et politique qu'on a dans la mondialisation, ça c'est une chose. Après, que des outils comme Facebook ou d'autres outils, mais Facebook a beaucoup fonctionné, puissent être appropriés par des acteurs locaux comme un mode d'organisation qui leur va comme un gant, parce que c'est pas hiérarchique, c'est pas délibératif, c'est pas représentatif, on est ensemble et c'est très pratique, on se donne des rendez-vous et ça marche. Que ça soit pris comme ça, ça ne m'étonne pas beaucoup. Le problème pour les États, c'est que ça donne immédiatement du coup une dimension bien au-delà du local, bien au-delà du lieu où les choses se passent, une dimension qui peut être nationale, voire internationale, au moindre conflit.
Je vous cite, vous dites « Il est important de comprendre que la crise mondiale est politique et que les temps actuels sont le temps des émeutes. » Donc c'est un extrait de votre dernier livre, « Le temps des émeutes ». Dans votre livre, vous expliquez qu'il existe une similitude entre les différents conflits à travers le monde.
Oui, il y a une similitude de façon de faire, d'abord. Ce que j'appelle le répertoire est un répertoire moderne, contemporain, qui n'est pas celui des émeutes d'autrefois. On ne fait pas de barricades, on brûle des voitures, on ne fait pas de la bataille de rue en défendant un territoire. Ce sont des batailles mobiles, on bloque des rues, on embolise les agglomérations en bloquant les circuits de transport. Donc c'est un dispositif de opérationnel complètement différent. Et puis ce qui déclenche la colère est peut-être varié, mais assez similaire d'un continent à un autre. Si vous voulez, les coupures systématiques d'électricité, ça enflamme les quartiers argentins comme ceux de Dakar, comme ceux de Karachi. De la même façon que la mort des jeunes, de la même façon que la répression du commerce informel, aussi bien en Équateur, en Algérie qu'en Chine. Voilà, il y a quelque chose. Alors bien sûr, tout le monde en a, jusqu'au printemps arabe, jusqu'aux événements récents, il n'y avait pas une conscience que tout cela était lié de la part des acteurs eux-mêmes. Il y avait une ressemblance objective. Là, il semble qu'une conscience, qu'il y a une communauté de destin, une communauté de situation, commence à naître. C'est intéressant à observer.
Vous décrivez là une similitude sur la forme des émeutes. Existe-t-il une similitude sur la portée des émeutes ?
La forme et la portée, la forme et le fond vont ensemble. Si vous voulez, il y a une crise de ce qu'on a appelé la politique pendant deux siècles et qui nous a servi à gérer les conflits de façon pacifique, à les transformer en conflits de programmes électoraux ou en conflits sur l'État. Aujourd'hui, il y a un face-à-face entre des États qui n'ont plus de marge de manœuvre en raison des marchés financiers et des populations qui n'ont plus de relais politique parce que des partis sont du côté de l'État. Donc ça, c'est le dispositif, quel que soit le régime politique, démocratique ou pas démocratique, c'est le dispositif qui génère l'émeute partout.
Dans vos écrits, vos interventions, vous soulignez une rupture, en particulier entre la jeunesse et l'État. Quelle est cette rupture ?
Il y a une rupture entre la jeunesse et le monde adulte qui est due au fait que le monde ne se représente plus de futur. Pour deux raisons au moins, trois raisons, parce que d'une part pour les marchés financiers le futur ça n'existe pas, il n'y a que le présent qui compte. La deuxième raison c'est que du point de vue scientifique et industriel, le mythe du progrès a fait place à l'idée que peut-être le compte à rebours de la Terre avait commencé. Donc la question c'est plutôt de savoir essayer de sauver la Terre que d'avoir des lendemains qui chantent. Et à propos de lendemains qui chantent, la troisième chose c'est que les révolutions du XXe siècle ne se sont pas forcément terminées de la meilleure façon qui soit. Donc voilà trois dispositifs d'avenir qui s'effacent et qui représentent l'exigence d'avenir dans le monde, c'est la jeunesse. Et elle paye collectivement et à l'échelle du monde cette absence d'avenir. Et on n'a plus à lui offrir aujourd'hui que des discours de discipline, des discours de culpabilisation et de la répression. Et on ne lui sert plus du tout d'avenir. On ne la porte plus comme l'espoir du monde, comme l'avenir du monde, mais comme un problème à résoudre.
Dernière question. Je parlais ici d'une rupture. Autre rupture au pluriel dont, que vous évoquez. Les populations contre les politiques de gestion urbaine, ainsi que les confrontations qu'ont les populations à la vie chère.
Les deux sont liés, parce que dans l'économie mondialisée et financiarisée que nous connaissons, la terre, le sol, les murs, les gens et leurs rêves est source de profit dans un dispositif qui n'est plus un dispositif de production de plus-value, mais qui est un dispositif de rente et d'accaparement de la rente. Et donc, la vie des gens, leurs besoins les plus basiques, boire, manger, dormir, habiter, devient aujourd'hui l'objet de systèmes de monopole et de rentabilisation et de spéculation. Donc la question, ça se cristallise autour de la question de la vie chère, mais regardons autour de nous, les besoins les plus élémentaires sont de plus en plus chers. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire rendre gorge et à faire de l'argent sur des gens qui n'en ont pas. C'est quand même assez fort.
Retrouvez le travail d'Alain Berthaud sur internet, sur son site alainberthaud.wordpress.com et en librairie avec son dernier livre Le temps des émeutes, publié chez Bayard.